Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Frédéric Maury.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric Maury.
Bonjour Jean-Pierre.
Heureux de vous retrouver. Nous recevons Abbas Jaber. Bonjour Abbas Jaber.
Bonjour.
Abbas Jaber, vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Advance Géocoton, une société spécialisée en particulier dans le négoce du coton, vous nous en dirait plus, et dans la logistique. En deux mots, Advance, c'est quoi ?
Alors, Advance a été créé en 1988 par moi-même. À l'origine, j'étais trader dans une autre vie. Et donc, le groupe Advance, au départ, était une entreprise de trading et qui a évolué au début des années 2000.
Le trading, c'est quoi ?
Le trading, c'est le commerce de matières premières agricoles.
D'accord, et donc qui a évolué ?
Et qui a évolué à partir des années 2000 vers l'industrie.
Alors, vous êtes né à Thiès, au nord de Dakar, ou né à Dakar ?
Je suis né à Dakar, j'ai vécu à Thiès.
Né à Dakar, au Sénégal, dans une famille d'origine libanaise, et vous avez aussi la nationalité française, dans ce monde où on parle beaucoup, de plus en plus, de frontières, même de murs, de nationalisme. Cela peut paraître original. Vous êtes à la fois du nord, la France, du
Absolument.
Sud, le Sénégal, de l'Orient, le Liban.
Absolument.
Quels sont vos liens avec ces trois pays, et comment est-ce que vous vous organisez dans ce rapport international ?
Alors, c'est tout à fait ça. Je suis à cheval sur trois continents, trois cultures, et je n'ai pas choisi. Je suis né de parents libanais, donc le droit, c'est mes origines libanaises. Je suis né à Dakar en 1958, et Dakar était une commune française. Donc je suis né français. Et quand je suis venu m'installer en France, il a fallu que je fasse une demande de réintégration à la nationalité française. Et je suis bien entendu sénégalais par le droit du sol. Et je suis très très attaché au Sénégal, bien entendu. Je parle couramment le Wolof. Et voilà.
Et vous parlez l'arabe ?
Je parle l'arabe. Je ne l'écris pas, mais je le parle. Je parle bien entendu le français, qui est ma langue maternelle et ma langue d'éducation.
Et vous sentez des... appartenir à ces trois pays, à ces trois cultures ?
Absolument, absolument. Je le revendique. Et quand j'avais 18 ans, et que, vous savez, à cet âge-là, tous les jeunes se cherchent, etc. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était un peu plus âgé, qui devait avoir 35-40 ans. Et je lui parlais justement de mes trois origines, et qu'il fallait choisir, etc. Et il y a eu un déclic, parce qu'il m'a dit... une pierre précieuse d'une seule couleur est très jolie, mais quand elle a plusieurs couleurs, elle est aussi belle. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête, et je me suis dit que ces trois cultures, que ces trois, langues, que ces trois nationalités étaient plutôt une force. Et ça m'a beaucoup servi, d'ailleurs, par la suite. Parce que quand je me suis installé en France, dans le trading, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perçu l'Afrique différemment que mes autres confrères traders. C'est-à-dire que j'ai vu ce qui s'est passé, dont on va parler tout à l'heure, l'agriculture. J'ai vu ce qu'il allait se passer dans l'agriculture en Afrique. Et j'ai eu...
C'est-à-dire ça vous donne une anticipation, une compréhension plus
exactement,
grande.
Exactement. Parce que tous les autres traders, ils sont installés à Londres, à Genève, à Paris ou à New York. Ils ne connaissent absolument rien à l'Afrique. Et moi, venant de ce continent, ayant l'Afrique dans ma chair, dans mon histoire, etc., j'ai perçu la chose complètement différemment qu'eux. Et ça m'a beaucoup aidé dans le métier que j'ai pratiqué, où j'étais parmi des géants.
Lesquels ?
Alors les grands ABCD, Eddie Mbangui, Cargill, Dreyfus et d'autres. Hein. Ouais. Et puis des groupes français comme Sucré d'Enré, comme Bosch, etc., etc.
Alors encore un mot sur votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui explique que votre famille libanaise soit arrivée à Dakar ?
Alors mon père, en fait, est arrivé au Sénégal à l'âge de 13 ans, en 1924. Et je ne sais pas, vous devez le savoir certainement, il y a eu une vague d'immigration du bassin méditerranéen vers le Nouveau Monde. Ce qu'on appelait le Nouveau Monde à l'époque, c'était l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et c'était l'Afrique aussi. Donc, arrivé à Marseille, il allait rejoindre sa famille, ses sœurs qui étaient installées en Argentine. Et arrivé à Marseille, les autorités françaises qui avaient besoin d'un intermédiaire entre les agriculteurs et les grands comptoirs français, Morel et Prom, CFAO et tous les autres, ils avaient besoin donc d'un intermédiaire. Et c'est là que toute la vague de Libanais qui allait vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud a été détournée vers l'Afrique noire.
Alors on va continuer à parler de ça au cours de l'émission. Nous parlerons coton, nous parlerons agro-industrie avec Atatou Diem, une industrielle malienne que nous entendrons dans la deuxième partie de l'émission.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Une première question de Frédéric Maury.
Alors, Jabert, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé donc à la fin des années 80, vous avez créé Advance à la fin des années 80. Tout d'abord, dans le négoce, c'est votre métier d'origine, le trading, ce que vous avez appelé le trading, c'est-à-dire le négoce de matières premières agricoles. Comment est-ce que, voilà, quelqu'un qui est né à Dakar, qui a vécu à Thiès, au Sénégal, peut finalement arriver à se développer dans un secteur qui est, à l'époque, et toujours encore d'ailleurs, dominé par des grands acteurs internationaux comme Dreyfus, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, comment est-ce qu'on fait ce saut du Sénégal jusqu'au négoce international?
Alors, d'abord, je voudrais dire que Dreyfus est un groupe ami avec qui je...
Louis Dreyfus,
Commodities. C'est un groupe ami avec qui nous avons d'excellentes relations et avec qui...
Un groupe très secret qui ne se répand jamais dans les médias.
Probablement. Mais voilà.
Alors, comment est-ce qu'on fait ce saut, justement,
alors,
du Sénégal?
Si vous voulez... Alors, justement... Le fait d'être venu d'Afrique, le fait de connaître la réalité africaine, le fait d'être tout simplement aussi de parents commerçants, le fait d'aimer la France, le fait d'avoir une espèce de connotation sociale et un peu créative, hein, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, pas m'imposer, mais en tout cas m'installer dans ce domaine. Et j'ai eu une idée à l'époque, mais elle est venue avec la pratique. Je me suis dit comment concurrencer et me battre contre des concurrents qui sont mes fournisseurs, c'est-à-dire en achetant de la farine, du sucre ou du blé à ces géants et en les vendant en Afrique, comment je pouvais être compétitif. Et j'ai compris une chose, c'est que dans la valeur d'un produit alimentaire, d'une matière première alimentaire qui arrive en Afrique, la valeur même de la matière première, elle représente à l'époque 30 à 40%. Et le reste, plus de 50%, était toute la partie logistique, c'est-à-dire le transport maritime, le transport terrestre, le stockage, la distribution, etc. Or, la matière première était cotée sur les marchés à terme, et là, vous ne pouvez pas acheter un produit à un prix différent que celui de sa valeur cotée.
Dans les marchés à terme, il faut expliquer que c'est des grandes places boursières à Londres.
Voilà, ce sont des places boursières,
Chicago,
voilà, qui sont déterminées, voilà, définies.
Très spécialisées, absolument. Et très pointues, où il est très difficile d'intervenir. Où le vulgum pecus, le citoyen lambda, a beaucoup de mal à intervenir parce qu'il faut des fonds très importants.
Parce que ce sont des prix qui dépendent en fait de l'offre et de la demande. Et voilà. Et j'ai compris que il fallait agir sur la logistique, le transport. Et mes concurrents à l'époque, ils chargeaient 1000 tonnes de sucre ou 2000 tonnes de sucre sur des navires d'ailleurs de français, hein, qui desservaient l'Afrique. Et moi, j'ai eu l'idée de grouper, de faire des groupages et d'affréter des bateaux de 5, 10 000, 15 000, 20 000. Et je suis arrivé, mon record, ça a été des bateaux de 35 000 tonnes avec 5 produits à l'intérieur, donc de l'huile, du sucre, de la farine, du blé et d'autres produits comme le riz, etc. Et de réduire le coût du fret maritime. Et ça m'a permis d'être compétitif vis-à-vis de mes fournisseurs, entre guillemets, concurrents. Et évidemment, l'écart de prix, je l'ai partagé avec qui ? Je l'ai partagé avec mes clients. J'ai dit à mes clients, voilà, je fais une marge de j'arrive à réduire le coût de la marchandise d'un certain nombre de dollars à l'époque, parce que les matières premières étaient cotées en dollars, et le sont toujours. Et j'ai partagé cela avec mes clients qui eux-mêmes l'ont partagé avec les consommateurs. Et en fait, mon arrivée dans ce domaine a considérablement révolutionné en quelque sorte ce marché.
Vous voulez dire que vous avez contribué à réduire les prix alimentaires en
absolument,
Afrique ?
Absolument, absolument, en son temps, oui.
Et est-ce que le fait, vous êtes aussi, on disait tout à l'heure, d'origine libanaise, il y a une communauté libanaise très importante en Afrique,
hein, oui,
dans la plupart au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans
bien
beaucoup
sûr.
De pays africains, est-ce que ça aussi, ça vous a aidé? Est-ce que vous avez fonctionné, en fait, avec cette communauté-là? Est-ce que c'est des réseaux qui ont aidé dans les années 90
alors,
pour se développer?
Alors, non, pas vraiment, parce que mes clients étaient mauritaniens, sénégalais, maliens, parfois libanais, très peu, mais parfois. Mais, si vous voulez, bon, pour revenir sur les Libanais, les Libanais ne sont pas tous commerçants. Hein, il y a des Libanais qui sont dans les professions libérales, qui sont avocats, médecins. Et puis, l'image selon laquelle les Libanais sont tous riches, elle est complètement fausse. Hein. Il y a des Libanais qui sont pauvres, il y a des Libanais qui sont dans des situations modestes. Mais, et pour revenir sur les Libanais, parce que je prends la balle au vol, les Libanais sont totalement intégré en Afrique, donc je ne faisais aucune différence entre un interlocuteur libanais ou africain ou français d'ailleurs, voilà.
Mais à Paris, est-ce que le fait d'avoir ses origines, d'être à la fois un peu libanais, un peu sénégalais, ça vous a compliqué la vie?
Est-ce que écoutez, la vie est tellement compliquée, même pour un Français de souche, etc. Moi, je l'ai pris plutôt comme une force, et ça a
On emploie cette expression Français de souche avec beaucoup de guillemets, n'est-ce pas?
Ben oui, évidemment, puisque vous m'avez dit
peu.
Le fait d'être un peu sénégalais, un peu libanais, un peu français. Je suis beaucoup sénégalais, beaucoup libanais et beaucoup français. Ça, j'aime le dire et je le revendique.
Oui, est-ce que ce que veut dire Jean-Pierre, c'est est-ce qu'à Paris, le fait que vous arriviez comme ça dans le négoce et que vous soyez libanais, sénégalais avec des origines assez diverses dans un milieu qui était plutôt international, est-ce que ça a été bien perçu, mal perçu? Est-ce que
dans un milieu, on va dire les choses autrement, très blanc, anglo-saxon.
Là, c'est vous qui parlez de couleur et de...
Je l'assume là.
Alors,
bien sûr. Très homogène.
Écoutez, donc je le répète. La vie est tellement dure hein, pour quelqu'un, pour un jeune. À l'époque, j'avais 30 ans, j'avais 5-6 ans d'expérience au sein d'une société en tant que collaborateur, de créer sa propre entreprise, de pouvoir s'imposer dans un monde qui est terrible. Hein. C'est tellement dur. Maintenant que j'ai eu des difficultés parce que j'étais, comme vous le dites, un peu libanais, un peu sénégalais, un peu français probablement, mais je suis arrivé un peu comme un nouveau. Je n'étais pas le fils de quelqu'un qui avait 50 ans ou 100 ans de voilà.
Alors
je prends
vous...
comme ça. Et cela plutôt, s'il y a eu difficulté, cela a plutôt renforcé ma combativité et ma créativité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Abbas Jaber, vous avez repris une vieille société cotonnière française qui s'appelait jadis la CFDT, la Compagnie Française des Textiles, puis d'Agris, enfin la CFDT c'était un héritage de la colonie, puis d'Agris que vous avez rebaptisé Géocoton. Pourtant, la première mesure que vous avez prise quand vous avez racheté d'Agris, ça a été un plan social, pourquoi?
Alors... ça a été également une expérience difficile et extrêmement éprouvante hein, pour moi, parce que je ne veux pas revenir sur le passé, hein, bien entendu, mais je rappelle quand même que l'entreprise, quand je l'ai prise, elle perdait 50 millions d'euros par an, les trois dernières années, elle avait perdu la totalité de son cash, elle avait l'équivalent de 200 millions d'euros de cash qu'elle avait perdu, et c'est pour ça que d'ailleurs Bercy a décidé de vendre,
le ministère des finances
a décidé de céder cette entreprise, de la privatiser,
parce que c'était une entreprise publique.
Absolument, c'est une entreprise publique, et à l'époque, moi, si vous voulez, du haut de mes 40 ans et de mes 15 ans d'expérience dans le trading en Afrique, j'avais compris que le coton allait retrouver ses lettres de noblesse. J'avais compris que l'agriculture allait un jour revenir vers l'Afrique, hein, donc que l'Afrique qui avait été submergée par tous les produits agricoles, tous les excédents européens, américains, asiatiques, allait retrouver un jour, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et le plan social, pour revenir, je tiens à vous dire quand même que je n'ai pas eu un article dans la presse. que le il n'y a pas eu le moindre conflit.
Pas eu d'article dans la presse parce que Dagry c'était pas une grosse structure, une énorme structure et donc
probablement. Les médias ne en tout cas, il n'y a intéressés. Eu aucun remous. Ça s'est fait humainement dans les règles de l'art et ce qui a permis de sauver tous les autres emplois. N'oubliez pas quand même que j'ai 2700 employés et le plan social il était de l'ordre d'une moins de 100 personnes quoi, 80 personnes. Donc pour sauver 2700 personnes et pour sauver l'agriculture et les cotonculteurs africains et continuer à exister, une entreprise qui a 70 ans, avec une filiale Copaco qui a 155 ans, qui est une des entreprises les plus vieilles dans le commerce du coton. C'est vrai que la barre était haut et il a fallu faire un sacrifice.
Est-ce que vous diriez que Géocoton va mieux aujourd'hui qu'à l'époque où vous l'avez récupéré? C'était en 2008, c'est ça?
Fin 2007, début 2008, absolument.
Est-ce que vous diriez que ça va mieux? Parce que beaucoup de gens disent non, ça va moins bien finalement qu'à l'époque.
Recruter, vous verrez les comptes, ça va beaucoup mieux. On doit faire entre, bon an, mal an, entre 10 et 18 millions d'euros d'EBITDA.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire que les marges que nous faisons aujourd'hui, pour être simple avec les auditeurs, sur un chiffre d'affaires groupe aujourd'hui de 250 à 300 millions d'euros selon les années, nous faisons à peu près une marge brute de l'équivalent de 15 millions d'euros. Géocoton n'est pas endetté. Géocoton a un savoir-faire, Advance Géocoton a un savoir-faire extraordinaire, unique.
C'est une marge de 5%, c'est considérable?
Oui, c'est bien évidemment. On vient d'une marge négative de plus de 10%. Donc, évidemment, ce sont les ratios aujourd'hui qui sont tout à fait acceptables.
On parle du Sénégal.
Au Sénégal, tous les auditeurs vous connaissent pas parce que voilà, mais il y a un pays quand même où votre nom est très connu, c'est le Sénégal. Vous avez souvent fait la une des médias, etc. C'est pas toujours pour des raisons très positives pour vous d'ailleurs. Donc on peut dire qu'au Sénégal, votre image n'est pas très bonne. Une des raisons pour lesquelles cette image n'est pas très bonne, c'est l'histoire de la Sonacos, donc l'ex-société public des arachides, de l'arachide, que vous avez reprise en 2005, que vous avez rebaptisé Sunéor et puis qui est redevenu Sonacos après. On vous reproche souvent d'avoir un peu coulé cette entreprise et qu'aujourd'hui ce soit une entreprise moribonde du fait de cette privatisation.
Alors je ne souhaite pas, si vous le permettez, Monsieur Maury, m'exprimer sur ce sujet. Vous comprendrez, nous sommes actuellement en voie de règlement de notre sortie de Sudéor avec l'État sénégalais et bien évidemment je me dois de respecter la clause de confidentialité qui me lie à l'État du Sénégal.
Donc en fait l'État du Sénégal a repris la société Sonacos,
voilà,
c'est ça, enfin,
d'un commun accord. Oui, le Sénégal m'a demandé de lui céder l'entreprise et actuellement nous sommes en cours de règlement.
C'est pas fait encore.
Non, ça n'est pas encore fait.
Expliquez-nous le processus. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette société? Pourquoi en sortir?
Alors, je veux bien parler de la filière, des filières agricoles en Afrique, je veux bien, mais je ne souhaite pas, encore une fois, Monsieur Boris, m'exprimer sur le sujet.
Ça pourrait gêner vos négociations?
Écoutez, non, je suis tout simplement lié par un accord de confidentialité. Voilà.
C'est tout simplement
du droit, c'est une question de droit.
Il y a un autre dossier, entre guillemets, sensible au Sénégal, c'est le dossier Transrail. Mmh. Donc, Transrail, c'est le chemin de fer qui relie Dakar à Bamako, dont vous avez eu aussi la concession pendant un certain nombre d'années et qu'on vous a retiré en 2015, je crois. Que l'État vous a retiré de manière assez brutale. Qu'est-ce que ce dossier Transrail qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi est-ce que finalement on vous retire ce dossier?
Monsieur Maury, je vous refais la même réponse. Je suis tenu par un accord de confidentialité avec le gouvernement du Sénégal et je ne souhaite pas m'exprimer encore une fois sur ce sujet.
Alors, ces accords de confidentialité, on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, puisque pour l'instant, nous laissons la place à un flash d'actualité. À tout de suite. Bienvenue Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Abbas Jaber, le fondateur et président du conseil d'administration de la société du groupe Advance Géo Coton, dont nous avons largement parlé au cours de la première partie de l'émission. Nous avons eu des réponses un peu elliptiques sur certains dossiers sénégalais en particulier. Alors, on va, Abbas Jaber, maintenant un peu élargir le spectre de cet entretien. Comment vont aujourd'hui les économies africaines que vous fréquentez tellement ?
Alors, je voudrais tout d'abord apporter une précision sur le groupe Advance Géo Coton. Le groupe Advance Géo Coton n'est pas un groupe de trading, c'est un groupe industriel. Nous avons une trentaine d'industries dans une quinzaine de pays d'Afrique. Et principalement dans le coton et les dérivés du coton, c'est-à-dire les oléagineux, l'aliment de métal. La transformation, bien sûr. Voilà. Et le métier d'Advance Géo Coton est un métier qui est unique aujourd'hui. Le groupe Advance Géo Coton détient un métier qui est unique. C'est-à-dire que nous allons du producteur jusqu'au consommateur. C'est-à-dire que nous assistons les producteurs dans leur production agricole, en leur délivrant des engrais, des intrants. Ensuite, on collecte la matière première que nous transformons. Une partie est consommée dans les pays et une autre partie est exportée. C'est la fibre qui est exportée.
Ce qui vous amène à bien connaître ces économies africaines.
Exactement.
Sur lesquelles je vous interroge.
Alors, voilà. Donc, c'est exactement ce que je voulais c'est là où je voulais en venir. Donc, pour apporter des précisions sur le groupe Advance Géo Coton, qui a quitté le Sénégal, bien entendu, mais on est toujours présent au Sénégal dans le coton et dans l'énergie solaire. Je voudrais également en parler. Donc, les économies actuellement, le coton représente pour la plupart de ces pays entre 5 et 8% de son PNB. Donc, quand le coton va bien,
le produit national brut.
Voilà, ouais. Quand le coton va bien, les cultures vivrières vont bien, et ça c'est une étude de la FAO en 2013 qui a dit que le coton était une culture locomotive et qu'elle était nécessaire à la production de cultures vivrières. Alors, l'Afrique aujourd'hui de manière générale a un énorme boulevard devant elle. Je m'explique. Et je vais vous apporter quelques chiffres, hein, juste quelques chiffres, afin que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique depuis ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, le monde a changé, le monde de l'agriculture a changé, la perception et l'approche de l'agriculture a changé. Pourquoi ? En 1940, nous étions 2,5 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Et en 2040, donc un siècle plus tard, c'est-à-dire demain, nous serons 9 milliards d'habitants. Donc il va y avoir 2 milliards d'habitants de plus sur Terre dans les demain, c'est-à-dire demain dans les 15 années à venir. Ça va bouleverser le monde. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous habitez dans un studio de 15 mètres carrés.
Revenons en Afrique.
Oui, justement, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes dans un studio de 15 mètres carrés, seul, et vous allez le partager avec 4 autres personnes. Et sur les 2 milliards d'habitants qui vont venir, l'Afrique va en générer 1. Et il y a un risque sur Terre qui est important, un risque de déficit en matières premières, donc de famine, etc. Et l'Afrique détient...
En produits agricoles,
absolument. Et les dernières réserves foncières aujourd'hui se trouvent en Afrique. Donc les économies africaines vont aller de mieux en mieux. Et le monde entier, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, tous les pays émergents, y compris l'Europe et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, vont être dépendants pour se nourrir de l'Afrique.
Vous voulez dire que l'Afrique aurait tort de vouloir chercher à bâtir une économie financière, une économie industrielle, que les pays africains auraient tort et qu'ils devraient se focaliser sur la production et la transformation de produits agricoles ?
Oui, absolument, absolument. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas avoir d'économie financière et numérique, etc. Bien entendu, parce que le monde l'exige aujourd'hui, mais la partie agricole aujourd'hui et dans toutes les civilisations, regardez les États-Unis, tous les pays d'Europe ont commencé d'abord par avoir une agriculture. Ensuite, ils sont passés à l'ère industrielle. Aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas seulement venir vers l'agriculture pour suivre ce cursus, entre guillemets, mais pour sauver le monde. Les Africains aujourd'hui, l'Afrique a un rôle énorme à jouer. Et parmi les pays d'Afrique qui sont les plus importants aujourd'hui, sur lesquels on doit compter pour nourrir la planète, vous avez des pays comme le Burkina Faso, le Mali, et le Cameroun, qui est tout près d'un géant qui s'appelle le Nigeria. En 2040-45, ils seront 400 millions d'habitants.
Le Nigeria.
Le Nigeria, absolument. Et le grenier du Nigeria se trouve au Cameroun. Donc, 1 milliard d'habitants en plus en Afrique. Il va falloir d'abord accéder à l'autosuffisance aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, pour nourrir le 1 milliard d'habitants qui est en Afrique. Et il va falloir nourrir le 1 milliard d'habitants qui va venir et fournir le reste du monde qui a besoin. Je vous donne un exemple. Les Chinois en Chine en 1980, ils consommaient 5 kilos d'oléagineux, d'huile, par habitant et par an. Aujourd'hui, ils sont à plus de 20 kilos. Et la croissance à deux chiffres de tous ces pays émergents fait que la classe moyenne aujourd'hui, elle est très importante et il y a un énorme déficit en matière agricole.
Alors, l'agriculture africaine, elle commence probablement à sortir de la trappe à pauvreté qu'elle constituait. C'est du moins ce que pense Patrick Dupoux, un spécialiste du Boston Consulting Group, qu'a rencontré l'envoyé spécial de RFI à Durban, Nicolas Champeau, qui couvre pour RFI le Davos africain.
Historiquement, c'est un secteur qui connaît une relative sous-productivité par rapport à d'autres continents. Et aujourd'hui, on est convaincu que nous sommes assez proches du moment où l'agriculture africaine va très largement se développer en termes de productivité, en termes de production, puisque un certain nombre de conditions sont en train d'être réunies pour voir vraiment la fameuse révolution verte commencer à arriver en Afrique. On parle de la qualité des infrastructures d'abord, hein, pour à la fois faire venir les intrants agricoles, les engrais, les pesticides, la mécanisation, et on parle aussi des conditions en termes de doing business qui sont en train d'être réunies, l'accès au financement, l'accès à l'assurance agricole. Et donc aujourd'hui, toutes ces pièces du puzzle qui manquent souvent sont en train petit à petit d'être réunies en Afrique, et c'est pour ça qu'on s'attend à une amélioration très forte de la productivité agricole africaine dans les prochaines années. On constate aujourd'hui, par exemple, que le marché des engrais est en train de croître très fortement depuis 2 à 3 ans. Là encore, parce que l'infrastructure s'améliore, la prise de conscience aussi des gouvernements africains sur le fait que l'agriculture est probablement le secteur qui sera le plus fortement générateur de croissance économique, mais aussi d'inclusivité sociale dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, je dirais, cette révolution verte, elle commence à arriver et elle a démarré. Et pour moi, c'est les 10 prochaines années vont être les années de la révolution verte agricole en Afrique.
Patrick Dupoux du Boston Consulting Group au micro de Nicolas Champeau à Davos. Question de Frédéric Maury.
Alors on l'a entendu avec Monsieur Dupoux, donc du Boston Consulting Group, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture africaine, elle a un formidable potentiel pour nourrir à la fois l'Afrique mais aussi l'humanité avec beaucoup de terres disponibles. Enfin, ça c'est la projection dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la réalité aujourd'hui, quand on la regarde, paraît beaucoup plus négative que ça. C'est-à-dire que l'essentiel de la pauvreté africaine se concentre dans les zones agricoles. Les rendements sont très faibles. La production agricole ne se développe pas si rapidement que ça. L'Afrique importe énormément pour se nourrir. Quel est le problème à votre avis ? Enfin, quels sont les problèmes aujourd'hui et pourquoi est-ce que l'agriculture africaine ne se développe pas plus vite aujourd'hui ?
Alors, l'intervention de Monsieur Dupoux est très très intelligente, très perspicace, et il a résumé le problème. Elle vient de naître, hein, l'agriculture africaine. Faut pas oublier que l'Afrique a reçu tous les excédents alimentaires du monde entier pendant des années.
Donc, ce qui a en partie grâce à vous aussi.
Il était à l'époque grâce au marché de l'offre et de la demande, mais à cette époque-là, je vous donne un exemple, la tonne de blé, elle coûtait entre 60 et 70 dollars en Europe. Elle était subventionnée par la communauté européenne. Et grâce à ça, les Africains, bien sûr, qui ne pouvaient pas produire des céréales aussi bon marché, ils ont réussi à vivre et à consacrer leur budget à autre chose, à l'éducation, etc. Donc ça n'a pas été une mauvaise chose à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'Afrique a un potentiel qui est colossal. Elle représente 60% des terres arables du monde. Les rendements, c'est vrai, ils sont faibles. Le potentiel, il est colossal. Il va falloir, et je pense que beaucoup de responsables africains, aujourd'hui de chefs d'État, sont conscients de ce problème et sont en train de le faire. Mais moi, je dirais, il y a une conjonction d'événements aujourd'hui dans le monde. On n'est pas seulement... Le problème de l'agriculture n'est pas isolé. Il dépend également d'autres sujets. Pour revenir sur le coton, par exemple, qui est aujourd'hui la principale culture de rente dans des pays concernés, dans des pays où le groupe Advance Géocoton est présent.
Dans les pays sahéliens.
Dans les pays sahéliens, oui, mais Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Je vais juste apporter quelques précisions quant au coton. Alors, on dit que le coton, c'est l'or blanc. On dit que tout est bon dans le coton. Alors, le coton habille par sa fibre. Le coton nourrit, parce que on fait avec du coton, on peut faire de l'huile, donc l'huile alimentaire. On peut faire de l'aliment de bétail, donc ça veut dire de la viande. Dans certaines variétés de coton, on peut faire de la farine panifiable, c'est-à-dire du pain. Et, bien entendu, de l'énergie. On fabrique même des billets de banque avec le coton. Et le coton également entraîne les cultures vivrières. Donc ça, c'est très important aujourd'hui de développer cette culture. Et le coton est un remède, monsieur Boris, je voudrais finir. Le coton est aussi un rempart contre l'immigration clandestine en Europe, parce qu'il permet de fixer les candidats à l'immigration. N'oublie pas aujourd'hui que 60 à 80% de la population en Afrique est jeune, à moins de 20 ans, et ils veulent tous partir. Et est un rempart également contre le terrorisme. Donc, et c'est pour cela que l'Europe se doit, et la France en particulier, parce que la France est le pays le plus proche de l'Afrique occidentale et centrale, la France se doit de développer ce coton, l'agriculture coton, parce qu'il va permettre d'apporter des revenus aux paysans, de les nourrir, et d'être un rempart, parce que le coût politique pour la France, le coût financier et le coût politique pur, il est colossal, avec toute la masse de réfugiés.
Mais vous attendez quoi de la France et de son futur président, de sa future présidente?
Alors,
c'est quoi, des financements massifs? Parce qu'en fait,
bien entendu,
potentiel, mais on comprend pas pourquoi ça décolle pas. On a toujours pas compris. C'est quoi le problème? C'est les engrais, c'est l'argent.
Mais c'est tout. C'est l'organisation du monde agricole. C'est les semences. Aujourd'hui, à vrai dire, il n'y a pas eu de politique française agricole en Afrique. Alors que les Chinois sont là, les Américains, les Indiens, et la France a un boulevard devant elle. Et si la France, je vais faire un peu de géopolitique, si la France veut un jour compter sur l'échiquier mondial, où vous avez d'un côté l'Amérique qui détient aujourd'hui tous les brevets OGM, entre la Chine qui aujourd'hui qui est le plus gros marché aujourd'hui acheteur de ces matières premières. Parce que les guerres, elles ne seront plus les guerres de tranchées, elles ne seront plus, ce sera plus la guerre des étoiles, ni la guerre atomique. La guerre, les prochaines guerres, ce seront les guerres de la nourriture. Et l'Afrique aujourd'hui a une position centrale par rapport au reste du monde. Et je pense que la France devrait investir et s'investir en Afrique. Ça leur reviendrait beaucoup moins cher que d'envoyer des armes ou des chars ou voilà. Et pour juguler ce problème.
Mais ça voulait dire que par exemple l'Agence française de développement, qui est l'instrument de la France dans son action en Afrique, de coopération, de soutien à ses politiques, elle est totalement inefficace et...
Je ne dis pas qu'elle est totalement inefficace, mais c'est vrai que tous les bailleurs de fonds, pendant des années, considéraient que l'agriculture en Afrique n'était pas un sujet, quoi. Donc il faut changer les mentalités. Aujourd'hui,
mais ça n'a pas changé après la crise de 2007.
Si, bien sûr que ça a changé, ça change, mais ça va très lentement. Le train mondial, aujourd'hui, qui va vers l'Afrique, il est en avance. Et je considère que la France a un peu de retard. Et j'espère que le nouveau président qui va venir va pouvoir faire avancer les choses.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Alors Abbas Jaber, je rappelle que vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Advance Géocoton. Et je passe la parole à Frédéric Maury.
Vous avez dit rapidement qu'un des problèmes, c'était les rendements qui restaient globalement faibles. Il y a un sujet d'actualité, c'est les OGM. Le Burkina, par exemple, qui testait les OGM dans le coton, les a interdits, a arrêté de le faire. Quelle est votre position sur les OGM en général? Et dans le cas du Burkina, est-ce que c'est pas finalement la preuve que les OGM, ça fonctionne pas?
Alors, l'échec de l'expérience OGM au Burkina, elle est due à un problème purement technique, hein. On n'a pas pris suffisamment de temps et de recul pour pouvoir réussir ce projet. Alors, je reviens au déficit mondial aujourd'hui de produits alimentaires. Il y a deux possibilités pour régler ce problème. C'est soit conquérir et aller vers de nouvelles terres, ce qui est le cas aujourd'hui par rapport à l'Afrique. Et là, l'Afrique est en première ligne. Soit augmenter les rendements à l'hectare. Alors, pour augmenter les rendements à l'hectare, forcément, on est obligé de passer un jour ou l'autre, à la culture OGM. 80% du coton mondial est OGM, 80%. Les pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, ils sont tous passés à l'OGM. Donc c'est une réalité, c'est absolument quelque chose que l'on ne pourra pas éviter un jour. Hein. Donc, vous savez...
Pourtant, on en revient au Burkina.
On en revient au Burkina, parce que le Burkina a un potentiel qui est colossal aujourd'hui, et ils ont énormément de terres, et c'est vrai que on a préféré régler le sujet très rapidement, et ça a été une très bonne décision d'ailleurs de la part du gouvernement burkinabé. D'arrêter, bien sûr, parce que on allait à l'échec, la fibre n'était pas au point, les paysans sur le court terme perdaient beaucoup d'argent,
est-ce que vous dites c'est qu'il faut y revenir à un moment donné? C'est ça que vous dites?
À un moment, c'est pas qu'il faille y revenir. C'est l'OGM qui nous sera imposé un jour ou l'autre, parce qu'il va falloir arbitrer entre 500 millions ou 1 milliard de personnes qui n'auront pas de quoi se nourrir, et peut-être quelques problèmes de santé qui vont, quelques dizaines de millions de personnes.
Donc, vous n'allez pas vous faire des amis en disant ça, vous savez que c'est un point de vue qui est très isolé.
Je sais, moi personnellement, moralement et intellectuellement, bien sûr que je ne suis pas pour les OGM. Évidemment, mais il y a un moment, il va falloir prendre des décisions et régler ces problèmes, le problème de survie de centaines de millions de personnes.
Ce que vous dites, c'est que c'est inéluctable, c'est-à-dire que ça arrivera quoi qu'il arrive.
Je le pense. Je le pense, hélas.
Vous parliez des concurrences, vous parliez de problématiques de développement de l'agriculture africaine. Un des problèmes quand même, c'est l'arrivée en Afrique de produits qui sont des produits à bas coût, qui viennent d'Asie notamment, hein, et qui quelque part concurrencent l'agriculture africaine. Je pense par exemple à l'huile de palme. Vous avez opéré pendant plusieurs années dans l'huile d'arachide. L'huile de palme, elle est beaucoup moins chère que toutes les autres huiles. Elle vient d'Asie massivement. Est-ce que ça, c'est pas un vrai souci pour les productions locales, cette concurrence venue d'ailleurs?
Évidemment, c'est un énorme souci. Et bon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais une des raisons de notre petit échec au Sénégal, oui, c'était l'invasion de cette huile de palme qui débarquait en Afrique. Et ce qui est difficile à accepter intellectuellement, moralement, même sur le plan de la conscience, c'est que tous les pays aujourd'hui producteurs d'oléagineux, c'est-à-dire je commence par le Brésil, l'Indonésie, l'Amérique, l'Europe, ils ont tous subventionné pendant des années leur agriculture. Ils ont tous protégé leur agriculture. Tous. Et pourquoi on interdit à l'Afrique de protéger sa propre agriculture? Ça, je pense que sur le plan moral international, hein, ça a été quelque chose que tous les industriels africains dans les oléagineux vivent très mal. Hein.
Alors, ce qui rend parfois compliqué le développement de l'agriculture et même de l'agro-industrie en Afrique, c'est la logistique qui est défaillante. Écoutez ce qu'en dit Madame Atatou Dem, une entrepreneure malienne qui fait dans la transformation de céréales et qui a beaucoup de mal à exporter. Elle s'en explique au micro de Gaël Lalex du service économique de RFI.
Nous, on est basé au Mali. Comme vous savez, le Mali, c'est un pays continental. Donc, ce qui fait que la logistique, le transport est extrêmement coûteux et peu disponible. Actuellement, on vend surtout à des supermarchés maliens, des boutiques. Et l'exportation se fait à la base des intermédiaires d'exportation. Donc, c'est des gens professionnalisés dans l'achat des céréales en Afrique et qui reconditionnent nos produits pour revendre en Europe et aux États-Unis. Le transport, ça coûte extrêmement cher par kilo. Le produit, par exemple, pour un sac de 50 kilos pour transporter en Côte d'Ivoire, vous pouvez payer jusqu'à 10 000 francs le sac. Donc, vous voyez un peu comment c'est compliqué pour nos petites entreprises d'être concurrentielles à ce niveau. On n'a pas de transport spécialisé dans l'agroalimentaire, ce qui nous manque. Et aussi, même dans la sous-région, on dit qu'il y a la libre circulation des biens et des services, mais c'est très difficile d'avoir l'agrément UEMOA ou l'agrément CEDEAO pour envoyer un produit du Mali en Côte d'Ivoire. Il faut payer beaucoup de taxes. Et ça, c'est vraiment dérangeant pour nous parce qu'on veut être concurrentiel, vendre entre nous d'abord avant d'aller en Europe ou aux États-Unis. C'est plus facile pour moi aujourd'hui de vendre en France qu'en Côte d'Ivoire.
Atatou Dem sur les paradoxes africains, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, Madame Atatou Dem a tout à fait raison. Aujourd'hui, un des sujets aujourd'hui pour accompagner l'agriculture en Afrique, c'est la logistique, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes dans certains pays obligés nous-mêmes de pouvoir réhabiliter les pistes pour transporter le coton du lieu de production jusqu'au lieu de transformation. Hein. Et si on ne le fait pas, le coton pourrit dans les lieux. Et donc, et là, il y a un formidable solidarité des producteurs, de leurs familles, et qui nous aident de manière complètement bénévole à réhabiliter les pistes. Donc, mais sur une échelle un peu plus importante entre les pays, et c'est vrai, bien évidemment, le chemin de fer, les routes doivent servir de lien entre les pays, et ça, je suis tout à fait d'accord avec Madame Del.
Et vous confirmez que cette logistique, ce transport, c'est un coût très important pour les produits agricoles. Mais,
évidemment.
Et plus important en Afrique qu'ailleurs dans le monde.
Absolument, parce que il y a un problème d'infrastructure très important en Afrique, et ça va être également une priorité pour dans toutes les politiques économiques africaines.
Est-ce que la solution, ça serait pas d'abandonner l'agriculture familiale et de passer à l'agro-business, aux grandes exploitations, à ce qu'on appelle l'accaparement de terres, à la création de grandes exploitations qui auraient les moyens peut-être d'investir?
Je pense que ce serait une erreur aujourd'hui d'imposer aux Africains ce genre d'organisation qui ont bien entendu été une réussite totale dans des pays comme le Brésil, comme même certains pays comme l'Ukraine, la Russie et tous les autres pays. En Afrique, ça n'est pas possible. Hein, ça n'est pas possible pour différentes raisons. Je pense que il faut plutôt encourager les propriétés familiales, les exploitations familiales qui sont de 2 à 5 hectares. Et pour vous donner une idée.
Les encourager à quoi?
C'est-à-dire les encourager et les aider à produire plus. Sur 5 hectares, s'ils arrivent à multiplier leur rendement par 2 ou par 3, ils ont un revenu qui est supérieur aux agriculteurs, aux ouvriers et aux immigrés africains qui travaillent aujourd'hui en France. Hein, et en Europe. Donc, la solution, c'est de les aider à augmenter leur rendement, vous l'avez dit tout à l'heure, par des engrais, des intrants, une assistance technique. Et alors, par contre, il y a un pays qui innove, et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne vient d'accorder un financement assez important, c'est le Cameroun. Et nous, Sodécoton, donc nous sommes actionnaires de Sodécoton à hauteur de 30%, nous sommes en train d'implanter actuellement des jeunes agriculteurs au nord du Cameroun, donc agriculteurs coton mais céréales, 60 000, donc des jeunes qui vont moderniser l'agriculture. Notre prochaine étape, c'est de pouvoir leur fournir un matériel afin qu'ils puissent mécaniser leur agriculture. Et en même temps, ça va être un rempart contre Boko Haram. Boko Haram est en train de descendre vers l'Afrique. En implantant ces 60 000 agriculteurs au Cameroun, on va pouvoir juguler non seulement le flux d'immigration illégale et clandestine vers l'Europe, mais surtout la descente et de Boko Haram vers les pays plus au sud.
Alors, il y a un autre souci majeur, il nous reste plus beaucoup de temps, mais dont il faut parler, parce que c'est vraiment un enjeu majeur pour la transformation des produits agricoles, c'est la question de l'énergie. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles on ne transforme pas les produits agricoles, c'est que ça coûte trop cher, l'électricité. Je crois que vous, votre groupe, a des projets importants dans ce domaine des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Absolument. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Advent Géocoton était un groupe unique aujourd'hui dans son savoir-faire en Afrique, en Europe et peut-être même dans le monde, et c'est que nous venons de créer une JV, une co-entreprise, c'est une entreprise, une association, nous sommes à 50-50 avec un des meilleurs en France, un des plus gros privés indépendants qui s'appelle Urba Solar.
Un producteur d'électricité
solaire, hein, donc par le photovoltaïque. Arnaud Mine, qui est un brillant dirigeant d'entreprise, a réussi à faire une pépite. Ils ont aujourd'hui 400 installations aujourd'hui photovoltaïques en France et dans le monde. Il est numéro un privé. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter à nos usines, pas seulement les nôtres, dans le coton. Entre parenthèses, Géocoton, Advance Géocoton, nous avons construit 130 unités industrielles en Afrique. Nous sommes le premier fabricant d'unités industrielles en Afrique. C'est de pouvoir implanter des panneaux solaires sur ces usines afin d'avoir donc une électricité bon marché, une électricité sans délestage, donc régulière, et dans le but, évidemment, parce qu'il y a une période de l'année où on égrène durant 4 à 5 mois de l'année, et le reste de l'année, nous avons de l'énergie qui est gratuite.
Égrener, ça veut dire séparer la graine de coton de la fibre.
Et l'idée, c'est de pouvoir fournir aux villageois donc de l'électricité pendant cette période-là, afin qu'ils puissent d'abord avoir de l'éducation. Aujourd'hui, les enfants étudient leurs leçons à la lumière de la bougie quand ils en ont, ou à la lampe à pétrole. 300 litres de pétrole par an et par habitant dans ces pays-là. Donc il y a un problème de l'éducation, il y a un problème même écologique. Deuxièmement, c'est libérer les femmes des tâches d'eau, qui sont aujourd'hui un frein au développement et à l'évolution de la femme dans ces pays, en mécanisant, en électrifiant les tâches d'eau. Le téléphone portable, la communication, parce qu'aujourd'hui, les Africains, il y a 850 millions de téléphones portables pour 1 milliard d'habitants en Afrique. Donc, il va falloir qu'ils puissent communiquer.
Il va falloir qu'ils puissent communiquer. Ça va être le dernier mot de cette émission, oui. Abbas Jaber, parce que, désolé de vous couper dans ce développement, mais cette émission est terminée. Nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission a été réalisée par Sophie Janin pour la partie audio et Yann Bourdelas pour la partie vidéo. Vous pouvez nous écouter sur RFI, nous voir sur les sites internet de RFI Jeune Afrique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
D'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.